Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, une émission qui parle évidemment de cinéma. Aujourd'hui, un sommaire très copieux. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez chacun deux films, et deux films bien différents.
Oui, moi je vais vous parler donc du nouveau film de James Gray, Armageddon Time, et puis de Black Is Belza 2, Aya Noah, voilà.
Un film d'animation.
Film d'animation.
Et toi Guillaume, deux films avec de l'action.
Et plutôt du style américain à la base. Nous avons Balle perdue 2 de Guillaume Pierret et Le défi de Noël de Florian Essick.
Ce sera l'occasion d'entendre Guillaume Pierret et puis son comédien Alban Lenoir que nous avons pu rencontrer. Et nous écouterons aussi Albert Serra et son comédien Benoît Magimel pour le film Pacifiction. C'est Marine qui nous en parlera, c'était un film en compétition à Cannes. Des films, deux interviews, c'est ainsi que débute Cinérama avec le passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, c'est Armageddon Time de James Gray.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Quel gros schmuck.
Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand.
Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment.
Rien ne pourra t'en empêcher.
Tu iras à l'université.
Il dînera à la table des rois s'il joue bien ses cartes.
Ils sont vraiment super, ces autocollants.
C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air.
Oh, la chance.
Après Ad Astra, James Gray revient sur Terre avec un film apparemment très éloigné du précédent. Pourtant, à chaque nouvel opus, le cinéaste creuse les mêmes sillons thématiques, hein, les déplaçant d'un sujet à l'autre tout en gardant des schémas narratifs similaires. Il est l'un des rares aux États-Unis à véritablement, on va dire, construire une œuvre globale dans le temps, en fait. Hein. Il a toujours évoqué sa propre histoire d'immigrés juifs d'origine russe par le biais de genres différents comme le polar, le mélo ou le film d'aventure. Les déchirements familiaux, la quête du père, le cheminement de l'individu pris dans l'étau entre affirmation et renoncement sont quelques-unes des obsessions de l'auteur de La Nuit nous appartient. Avec Armageddon Time, il traite frontalement de sa propre histoire, hein, autobiographie romancée sans doute, mais teintée d'amertume et de noirceur, loin du chromo passéiste de tous ces films qui ravivent un peu la fibre d'une jeunesse perdue. Donc point de nostalgie et de candeur dans cette chronique de l'enfance qui se déroule au début des années 80 en plein New York. Paul Graff est un jeune garçon lunaire et espiègle de 12 ans qui a la fibre artistique, solitaire et rêveur. Il n'est pas pour autant passif, s'opposant par ailleurs à ses professeurs. Il étudie au départ dans un collège populaire dans le Queen avant d'intégrer, sous la pression familiale, un établissement privé élitiste et réactionnaire, financé d'ailleurs, pour la petite histoire, par le père de Donald Trump. Alors il est entouré d'une famille très présente entre un grand-père humaniste et contestataire qui a connu le nazisme, un père ambivalent qui peut se montrer juste comme très violent, une mère douce et compréhensive mais qui cache un mal-être. Il se lie aussi d'amitié avec un afro-américain, Johnny, pas vraiment gâté par la vie, rejeté par l'entourage de Paul et victime permanente d'un racisme ambiant.
Je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir.
Je comprends pas pourquoi.
Je crois que tu le sais très bien.
Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère.
Ça craint.
Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite.
Tu n'as pas l'air enchanté, qu'est-ce qu'il y a?
Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs.
C'est qui celui-là?
C'est un mec de mon ancienne école.
Il y en a qui venaient chez toi des fois?
Dans ce cas-là, tu réagis comment toi?
Bah, je fais rien du tout, évidemment.
Je trouve ça malin.
Le récit de cette amitié entre les deux enfants contient la part la plus désenchantée d'un film qui ne croit plus dans les valeurs de l'Amérique, hein, nation incapable de donner une chance à un individu dès que l'étiquette délinquant est plaquée sur son front. Alors Gray égratigne cette nation blanche triomphante dans laquelle il s'inclut, même si ses origines juives et russes le classent dans une position intermédiaire. Sa famille, des exilés au fond, sont des démocrates à la fibre humaniste, mais pétris de contradictions. Il ne voit pas d'ailleurs d'un bon œil les relations que Paul entretient avec Johnny. Il s'agit pour James Gray de regarder regarder dans le rétroviseur avec lucidité, de faire une sorte d'examen de conscience sans tricher. Il montre clairement que pour continuer à étudier, notamment, hein, il a renoncé à défendre son ami, même s'il a essayé. Le film devient alors une réflexion passionnante sur le tiraillement entre l'utopie de clamer haut et fort ses idées et ne pas faire de vagues pour s'intégrer, entre le désir de s'affirmer en tant qu'artiste et le réalisme de rentrer dans le moule pour se forger un avenir dans une société capitaliste.
Avec ta grand-mère, quand elle est arrivée dans ce pays, on n'avait pas grand-chose.
Mais pourquoi elle est venue en Amérique ?
Parce qu'on voulait la tuer. Il y avait des troupes de soldats et ils se mettaient parfois à chercher des juifs. Ils nous détestaient à l'époque. Ils nous détestent toujours. On a pris le bateau et on a débarqué en Amérique. La terre de tous les rêves.
T'as envie que je fasse comme toi ?
Je veux que tu puisses faire beaucoup mieux que moi. La vie est injuste. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est profiter de la chance qui t'est offerte. Et surtout, tu te retombes là-bas.
Je place tous mes espoirs en toi et ton frère. Vous êtes toute ma vie.
James Gray, en feignant de livrer un petit film au contour limité, réussit à insuffler à l'intérieur de sa petite histoire une ambition politique, sociale et philosophique d'une rare intelligence. Encore une fois, Gray n'a besoin d'aucune esbrouffe pour raconter son récit, épurant davantage encore une forme douce et sans effet, qui sera sans doute taxée d'académique par les défenseurs d'un cinéma plus boursouflé. La mise en scène, bénéficiant encore une fois de la lumière magnifique tout en couleurs obscures de Darius Kondji, constamment au service d'un scénario brillant, distille une émotion qui ne cesse de s'intensifier plus le film avance. Une émotion que l'on doit aussi aux comédiens, tous époustouflants, du jeune Banks Repetta à Anthony Hopkins, génial en grand-père, en passant par Anne Hathaway et Jeremy Strong qui incarnent les parents de Paul. Armageddon Time est peut-être je dirais, le meilleur film américain sorti cette année, qui derrière sa fausse simplicité cache une œuvre immense et complexe, pamphlet mélancolique sur un pays qui a globalement renoncé à un idéal. Alors heureusement qu'il reste les artistes pour fuir l'aliénation du réel, à l'image de cette fin ouverte que chacun peut interpréter à loisir.
À vous donc d'interpréter cette fin, ce film Armageddon Time de James Gray, sorti sur les écrans depuis le 9 novembre. Voilà un autre film félicité par la presse, quasiment unanime, et en compétition à Cannes, qui nous emmène à Tahiti. C'est Pacifiction, Tourment sur les îles, film d'Albert Serra que nous pourrons entendre après que Marine nous ait parlé du film.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, arrivent deux rôleurs, haut commissaire de la République. Alors qu'est-ce que le haut commissaire ? Eh bien, c'est la personne qui dirige les services administratifs, qui fait le lien avec les administrations centrales et les ministères à Paris. En bon représentant donc de l'État français, eh bien, deux rôleurs doivent tout autant faire des discours dans les réceptions officielles que danser la nuit dans les bars malfamés pour se mêler à la population locale qu'il doit plus ou moins surveiller afin de prévenir d'un quelconque soulèvement. Une rumeur en particulier se fait justement insistante et crée un climat de suspicion. On aurait aperçu au large de l'île un sous-marin qui annoncerait peut-être la reprise des essais nucléaires français vers Tahiti. Il faut savoir qu'il y a quand même eu dans ces régions-là environ 200 essais nucléaires entre 1966 et 1996.
Vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des rumeurs ? Moi je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude.
Regardez comme elle est belle, notre île.
Oh, regarde ça.
Oh, mon Dieu.
Oh. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais.
Ça fait des sensations, ça me change.
On va pas revenir en 95. Et puis on se prend des essais nucléaires chez nous.
Alors attention, pitch trompeur, si Pacifiction installe un véritable trouble chez son spectateur, s'il se place d'emblée comme un thriller sous le soleil, c'est pour mieux nous tromper, car nous ne saurons jamais vraiment quelle est la véritable intrigue du film, tant il multiplie les fausses pistes. À l'instar du cinéma tropical de Apichatpong vers Assetha Kulm, même si les deux cinéastes ont des pattes très différentes, le réalisateur Albert Serra nous invite ici, ou plutôt nous force, à nous laisser glisser dans l'atmosphère du film sans trop savoir où on nous emmène. Une atmosphère moite, étrange, fascinante, qui s'étend ici sur presque plus de 3 heures tout de même.
J'ai vu beaucoup de marins dans l'île, là, et j'ai pas tellement confiance en ma hiérarchie. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart.
Si le film s'ouvre avec un coucher de soleil, eh bien c'est pour nous indiquer que la toile du fond et la fin d'un monde, celui de l'empire colonial français, que pourtant nombre de personnes en Polynésie s'échinent à faire perdurer ou du moins à en garder l'illusion. De Roller, interprété par Benoît Magimel, épié par un homme inquiétant qui l'observe où qu'il aille, continue à jouir des stigmates de la présence française. On écoute de la musique exotique, on est accueilli, enfin uniquement bien sûr lorsque l'on est blanc et riche, hein, par de belles danseuses à moitié nues, et on se prélasse dans des hôtels magnifiques en étant servi par des locaux. Si l'on en croit la filmographie de Albert Serra, il aime mettre en scène la chute des empires. Dans La mort de Louis XIV, film dont le titre ne laisse pas trop place à l'imagination, hein, Jean-Pierre Léo incarnait le monarque vérolé en fin de vie. Son film Historia de la Meva Mor parle de la mort racontée par Dracula et par Casanova. Le réalisateur catalan aime à convier Eros et Thanatos dans son œuvre. Benoît Magimel n'est pas forcément, à mon sens, à son meilleur, hein, lorsqu'il marmonne façon Marlon Brando, en déployant tout l'arsenal de la virilité hégémonique. On le préfère quand il déclame son texte de façon plus audible, comme dans le film de son vivant. Mais on ne peut nier que l'acteur de 48 ans est revenu à son meilleur en termes de choix artistique. Et choisir Albert Serra, réalisateur iconoclaste, dont les films au rythme lancinant divisent forcément la critique, fait partie de l'exploration de son art que le comédien poursuit. Néanmoins, sa performance dirigée par Albert Serra est vraiment à ne pas rater. Pourquoi ? Parce que Albert Serra, c'est une méthode toute particulière. Le réalisateur n'écrit que des débuts de dialogue et laisse les acteurs improviser en laissant sans cesse filmer trois caméras afin de complètement bouleverser le jeu des comédiens qui ne peuvent concentrer leur attention vers trois directions différentes en même temps. Par ce dispositif, le cinéaste fatigue ses comédiens, les rend vulnérables, il les oblige également à être totalement disponibles à ses indications car il les dirige avec une oreillette. Ce qui résulte de ces méthodes, c'est que nous, spectateurs, avons conscience, sans parvenir pour autant à analyser ce que nous voyons, d'être devant un objet filmique inédit qui explore toutes les possibilités du cinéma. Pacific Fiction, présenté en compétition à Cannes, un autre empire français en bord de mer qui décline, est reparti bredouille, mais mérite une vraie découverte au cinéma, sur un écran aussi grand que son ambition.
Pacific Fiction, donc sous-titré Tourbon sur les îles, d'Albert Serra, est en salle depuis le 9 novembre. Nous allons pouvoir entendre Albert Serra et Benoît Magimel, son comédien, puisque tous les deux étaient présents au Festival de Cannes, hein, pour accompagner le film qui était en compétition. Et donc, eh bien, nous avons écouté attentivement cette conférence de presse et on en a extrait le meilleur, avec bien le réalisateur, hein, qui parle de son système basé sur l'inspiration des acteurs, avec un tournage réalisé au moyen de trois caméras pour obtenir 540 heures de rush. C'est pour ça que le film est finalement un peu long, au-delà des 3 heures. Allez, on écoute Albert Serra et Benoît Magimel.
C'est une fiction, le titre comme il dit, Pacific Fiction. Alors, comme vous avez vu dans le film, je pense qu'il y a un côté artificiel qui est très très prononcé, un côté improbable, les relations amoureuses, aussi lui-même comme politicien, il y a un côté légèrement improbable, et c'est ça que j'aime, non? Que tous les films soient une fantaisie, évidemment, avec de certaines observations de l'humain, mais assez pointu, modestement, mais assez intéressant, je pense, surtout sur l'actualité ou sur des sujets très contemporains, mais en même temps, dans le cadre ça, d'une pure fantaisie cinéma, tout est possible.
C'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Pensez de les mettre, mais contrôle rien. Même moi, je contrôle rien.
J'ai pensé que pour ce personnage, il a de toute façon dans son visage une sorte d'ambiguïté, quelque chose qui est un peu perturbant, d'une façon ou d'une autre, et puis ça cadrait bien avec le personnage. Sa présence aussi m'intéressait, et j'ai aussi beaucoup joué avec une certaine présence qui est là dans ce film. Il y a aussi le côté narratif qui traite de beaucoup de sujets différents, il y a beaucoup de mouvements, et comme vous le savez, tout cela est la présence de quelqu'un au centre du film qui compte, et je pense que sa performance, notamment dans ce cas, est extrêmement complexe, subtile et très intéressante, et apporte beaucoup dans différentes directions. Parfois on se dit, bah tiens, c'est quelqu'un de sympa, parfois il manipule les autres. On ne sait pas très bien quel genre de relation il a avec les autres. Au final, c'est un peu, on a l'impression qu'il est paranoïaque ou psychopathe. Il n'est jamais stable. Et je pense que c'est tout à fait possible de faire quelque chose comme cela dans le cinéma.
Des intérêts hostiles à notre pays
commence à être un petit peu trop prison.
Vous a menacé ?
Les méthodes de travail d'Albert sont complètement différentes de ce que je fais habituellement, enfin, de ce que d'autres cinéastes font en général. Et ça, en ce sens où on a une totale liberté, vraiment une liberté incroyable. J'aime bien dire ça parce qu'un jour, Albert met en place une situation, parce que ce sont des situations avec des acteurs, et il me dit bah, « tu rentres quand tu veux ». Et ça, c'est incroyable. Vous voyez ? Donc j'ai le temps de manger un petit morceau si je veux, boire un verre et puis d'y aller quand je le sens, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Il vous donne toute l'aisance possible et tout est très simple. Et voilà, une fois qu'on n'a pas beaucoup parlé du personnage, mais en tout cas, voilà, en ce sens, j'ai adoré travailler de cette manière-là, en fait. On n'a pas de texte à apprendre. C'est formidable.
Tout mon système est un peu basé sur l'idée de l'inspiration des acteurs. C'est quelque chose qui ne compte pas très souvent dans le cinéma, parce que comme il y a une super machine préparée pour faire jouer les acteurs, et parfois, c'est dur, l'acteur n'est pas inspiré, mais il doit jouer quand même. Mais par contre, dans mon système, qui est basé sur utiliser plusieurs caméras, etc., vraiment, je suis très attentif et je suis au service de l'inspiration des acteurs. Et les jours que je ressens, la combinaison d'acteurs que je ressens que ça peut marcher ce jour-là, je l'organise et je l'essaie de soutenir ou accompagner le maximum possible. Mais c'est eux vraiment qui guident, c'est tout le système qui est adapté à chercher cette inspiration.
C'était Albert Serra, réalisateur de Pacifiction, et Benoît Magimel, son acteur. Donc le film est en salle depuis le 9 novembre. Il est revenu bredouille de Cannes. Une footballeuse qui perd la vista, c'est le défi de Noël. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
J'ai un club à sauver.
Je suis plus bonne à rien, coach. Comment tu veux que ça s'arrange? Sur le terrain, je crée aucune différence.
Je pense que le moment est venu. Il est temps pour toi d'aller faire un tour là-bas.
Ça y est, hein, 2 semaines après la Toussaint, changement complet de programme et d'ambiance. Alors Noël se prépare et Noël arrive à grands pas. On a l'habitude des films ou téléfilms de Noël diffusés en boucle à partir de novembre sur TF1 ou M6, un grand cru local. Eh bien cette année, il y a la possibilité d'assister à l'un d'entre eux, mais sur grand écran. Et c'est un produit français, qui plus est, chose rare, tant le marché est d'habitude complètement phagocyté par les Américains qui ont su en faire une institution. Alors Florian Essic s'est donc donné la tâche particulièrement ardue d'incarner à lui tout seul un genre mine de rien très difficile, car nécessitant un premier degré absolu, et donc le risque de susciter les rires bien présents à une époque où le cynisme règne. Grandement inspiré par les comédies romantiques à l'américaine, dont Coup de foudre à Notting Hill, auquel il emprunte rien de moins que la toute fin, remanié pour les besoins de son contexte, bien évidemment, le réalisateur s'offre également un rôle de complément d'affiche à côté d'Aurore Planas, qui fait penser à Carole Bouquet jeune, et juste devant un casting improbable. Alors on y croise un pêle-mêle Patrick Préjean, qui est la voix de Tigrou, l'animateur Alexandre Deban, une apparition de Jean-Marc Généreux, et même un caméo de Corinne Nemec, le cultissime Parker Lewis en personne dans le rôle de l'entraîneur particulièrement péchu. Bref, une batterie de personnes connues qui viennent soit en renfort, soit s'exercer à montrer une autre facette d'eux. Ils sont tous là, et souhaités par Florian Essic pour légitimer son camp de Noël et ses bons sentiments.
La vie, elle donne tous les jours. Elle reprend parfois. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des choses positives à trouver.
Vous êtes curé ?
Non, juste vieux.
Le défi de Noël sera aussi celui de s'imposer aux yeux des spectateurs, car les bons sentiments et la sympathie évidente qu'il dégage n'empêchent néanmoins pas à l'ensemble de manquer grandement de rythme et de souffrir d'une production que l'on devine, malgré les noms précités, assez anémique. Alors l'ensemble est beaucoup trop dialogué, là où l'imagerie du conte pouvait permettre des silences et un peu plus le champ libre, la force d'une histoire, certes de Noël, mais avant tout universelle et qui parlera à tous. La platitude de la mise en scène n'aide pas le récit à gommer cet important défaut, même si elle est très agréable accompagnée par une bande originale bien fichue et, elle, parfaitement dans l'esprit, le ton et le rythme de ce que l'on attend d'une production anglo-saxonne de Noël. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas enlever au défi de Noël, c'est son cœur. En soi, c'est maladroit, mais c'est suffisamment rare pour le souligner et l'apprécier à sa juste valeur, c'est totalement sincère. C'est un vrai bol de premier degré, d'anti-cynisme et de positivité qui serait dommage d'ignorer. Il est un simple spectacle naïf, fait pour plaire à toute la famille, et il y devrait y parvenir sans trop de soucis.
Le défi de Noël est en salle depuis le 16 novembre. novembre. La fin de la guerre froide et la répression policière espagnole face à une nouvelle génération d'activistes basques ayant soif de musique et de liberté, c'est Black Is Pelza.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
3 ans après le premier opus, une sorte de polar punk et politique autour de la figure de Manex, journaliste enquêteur franco-basque à l'affût des scandales et des mouvements sociaux, Black Is Pelza 2, Ainhoa, raconte sous la forme d'un voyage initiatique de son héroïne, Ainhoa, la fin de la guerre froide, la répression policière espagnole face à une nouvelle génération d'activistes basques, les dictatures soutenues par les États-Unis par l'intermédiaire de la CIA, les ravages de la drogue, le sida et j'en passe. Le scénario un peu fourre-tout, brassant toute une géographie politique des années 80, part certes un peu dans tous les sens, mais il est galvanisé par une énergie punk qui fait plaisir à voir. Alors les auteurs des Fous Furieux, le réalisateur Fermín Muguruza et les scénaristes Arkaitz Cano et Isa Campo, qui était la co-scénariste des Les Repentis.
Dont on a parlé la semaine dernière.
Et j'ai d'ailleurs posé des questions au réalisateur au sujet de la scénariste. Donc, ils n'adaptent là plus leur bande dessinée, ce qui était le cas du premier, mais prolongent l'univers avec une histoire originale entourée de quelques cadors du monde de l'animation. Tourné dans l'esprit des adaptations de ciné de Corto Maltese, Black Is Pelza 2 s'avère une bonne surprise qui réjouira en premier lieu les amateurs d'un cinéma basque dont on ne peut pas dire qu'il inonde les salles obscures. Ainhoa est la fille de Manex, une idéaliste qui poursuit la démarche d'un père qu'elle n'a jamais connu, jamais vraiment connu, devenant une sorte d'aventurière moderne, féministe et libertaire, parcourant le monde. Elle va côtoyer les sandinistes au Nicaragua, fricoter avec des espions, atterrir au Liban sous les bombes, en passant par Marseille, plaque tournante du trafic de drogue. La narration en sur-régime, portée par une mise en scène électrisante, provoque parfois un effet de saturation, surtout si on n'a pas en tête toutes les références liées à l'actualité de cette époque. Mais comme un bon morceau punk, mouvement dont issu d'ailleurs le réalisateur, Black Is Pelza 2 se déguste comme un manifeste d'une époque révolue, un film d'animation anarch qui porte en lui la nostalgie des idées révolutionnaires. Alors soutenu par une vraie réflexion sur les changements de société, doublé d'une critique des politiques fascistes et conservatrices, le film souffre parfois, comme le premier d'ailleurs, d'une animation sommaire et d'un graphisme influencé par la culture rock un peu datée, et notamment BD, heureusement compensé par un montage très dynamique et une colorimétrie séduisante. Alors des défauts, liés sans doute à un manque de moyens, qui n'entachent pas le plaisir que l'on prend à suivre les aventures débridées d'une globe-trotteuse métisse à la cool qui désingue le politiquement correct par son attitude très sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, il y a un vrai plaisir aussi d'entendre une multitude de langues qui se télescopent, créant une jubilation communicative dont on entend parler à la fois basque, français, anglais, espagnol, arabe. Voilà, c'est une bonne surprise, un film assez rafraîchissant, surtout dans le monde de l'animation un peu adulte qui est peu présent finalement sur les écrans.
Black Is Pelza est en salle depuis le 16 novembre. Balle perdue avait cartonné sur Netflix, et bien ils ont remis ça avec Balle perdue 2. On en parle tout de suite.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Ah oui, on en reparle, même s'il n'est pas question de balles perdues dans ce Balle perdue 2. Parce que lorsqu'un film est un véritable succès, vous le savez, une suite est forcément envisagée dans la foulée. Alors à peine 2 ans après la sortie du premier opus, voilà que Balle perdue se voit honoré d'avoir une continuité en attendant l'inévitable numéro 3. Il faut dire que le 1 a rassemblé 37 millions de visionnages sur Netflix, faisant du film de Guillaume Pierret l'un des films français les plus vus sur Netflix, et le deuxième du top 10 des films en langue non anglaise les plus vus sur cette même plateforme aux États-Unis. Étant donné que c'est le pays qui a commis et plébiscité un tournant assez dommageable dans le domaine du film d'action, en passant des films d'à la John McTiernan au Fast and Furious, était-ce une raison de s'en réjouir? Dans un premier temps, bien évidemment, parce que Balle perdue 1 était un petit film de potes qui avait connu une belle success story à l'américaine justement, en commençant avec un court-métrage comme Matriarche mettant les rues de 7 à feu et à sang pour finir par y revenir plus gros, plus grand et bien plus impressionnant 10 ans plus tard. Une plateforme avide de spectacles locaux derrière et avec un casting plutôt sympathique dominé de très loin par Alban Lenoir. Pétri de défauts, principalement d'écriture et pas totalement carré dans sa mise en scène, Balle perdue 1 enthousiasmait néanmoins du fait de son statut de première œuvre qui en avait sous le capot et qui bourrinait avec une grande fraîcheur. Hélas, si les premières images de Balle perdue 2 étaient excitantes et que la disparition logique de Ramsey pour ce nouveau chapitre mettait l'eau à la bouche, force est de constater qu'à part une poignée de scènes d'action très énervées, l'ensemble ne provoque plus du tout la même euphorie. On aurait espéré qu'en 2 ans, le film se paie les services d'un vrai scénariste, histoire d'aller dans le sens de la customisation de l'ensemble. Malheureusement, à l'écriture est cette fois-ci bien plus lourde, entre raccourcis incompréhensibles, incohérences aberrantes et répliques tombant toutes complètement à plat. La spécificité d'un tournage dans le sud, hein, qui avait su si bien se servir de l'espace entre Frontignan et Sète pour la grande course-poursuite du 1, bah, tombe à plat là aussi. Hein. Tant rien n'est vraiment utilisé en termes de mise en scène quand on ne fait pas de l'Espagne une localité joignable à 5 minutes de Montpellier. Si le charme d'Alban Lenoir fonctionne toujours, prouvant qu'il est l'un de nos meilleurs jeunes acteurs et plus sympathiques représentants d'un cinéma populaire qu'on aimerait revoir en grande forme, c'est la quasi-totale catastrophe pour le reste, Stéphie Selma en tête qui n'arrive jamais à sonner juste. L'argument choc du film, à savoir une voiture tunée en espèce de taser géant sur roue, est non seulement grillé dès la bande-annonce, mais aussi durant le déroulé du film, pour arriver sans grande pompe à la fin, et s'en va après avoir nettoyé 4 voitures dans le décor. Alors pire, le film n'a pas de méchant, sauf si vous clignez des yeux à la toute fin, et tourne autour d'un enjeu inintéressant qui n'aboutira même pas. Donc voilà de quoi susciter une grosse frustration, sauf si vous aimez les spectacles torchés et criants de deux, ne s'embarrassant pas d'une quelconque structure, car vous l'aurez compris, tout sera élucidé dans un numéro 3 déjà commandé. On retient quand même quelques bastons mano à mano bien méchantes, comme celle de la scène d'introduction, transformant une cuisine en champ de bataille improbable, comme dans un bon vieux Van Damme période Time Cop. C'est mieux que rien. Bref, Bal perdu 2 veut faire du bruit, mais c'est un peu comme le tube de Motley Crue pris littéralement Too Fast for Love, trop rapide pour l'aimer.
Eh bien, on va écouter une partie de l'équipe, Guillaume Pierret et puis son comédien Alban Lenoir, qu'on a pu rencontrer. Ils vont parler essentiellement de l'opportunité de finalement réunir davantage de spectateurs en étant sur une plateforme comme Netflix, plutôt qu'en étant présent dans les salles.
En 28 jours, il y a eu 38 millions de comptes Netflix qui ont activé le film, en tout cas. Mais depuis, on pourrait pas dire combien de personnes l'ont vu, en fait. Ça doit être colossal. En tout cas, nous, on n'a pas les chiffres. C'est assez logique, quand on fait une suite de films d'action, d'aller plus vite, plus fort, et de compenser aussi souvent, les premiers films sont pas des brouillons, mais on expérimente. On n'a pas le budget suffisant pour se faire plaisir. Et on peut le faire ensuite, dans la suite. Mais l'idée, c'était pas juste de faire de la surenchère pour de la surenchère, c'est juste faire le film cohérent avec le premier et cohérent avec les envies de départ. Voilà. Mon film existe pour le monde entier d'un seul coup. Donc c'est génial pour moi, c'est génial pour nous, je pense. Et on se pose pas trop la question de savoir s'il aurait eu plus sa place en salle. Il n'y a pas de frustration, en tout cas, être nous sur Netflix et avoir accès au monde entier. En fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais comme il y aurait eu des inconvénients en sortie de salle, en fait, tout simplement.
Non, mais c'est vrai que j'avais une petite anecdote qui me faisait rire. J'étais à Dijon il y a quelques mois et il y a une famille de touristes vraiment mexicaine qui m'approchait avec leur téléphone, vraiment, mais je les prive d'instinct pour les prendre en photo. En fait, ils voulaient prendre une photo avec moi. Du fait de Bala Perdida, Lino, et c'était assez marrant.
Je sais ce que t'as perdu ces jours-là. Tu oublies qu'ils sont recherchés en Espagne aussi.
Ils feront bientôt une erreur et je serai là.
Dis-moi où est-ce qu'il est.
Personne ne sait où il est.
Mais tu veux quoi?
Mais je veux qu'il paye.
Ça faisait pas partie du deal.
Quel deal?
Tu crois qu'avec Areski on bossait tout seul? Est-ce que tu crois qu'on rendait de compte à personne?
Je pense qu'aujourd'hui, la technologie nous donne des moyens, donne au studio en tout cas les moyens de faire les choses, des choses impressionnantes à pas cher. Et à galérer un peu moins, je pense, à faire tous les effets en dur, en vrai, etc. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une bonne béquille. Hein. Les films de super-héros sont de plus en plus hideux visuellement, je trouve. Ça, c'est mon point de vue. Tout est tourné sur fond vert et j'ai l'impression que c'est pas par souci de faire quelque chose de bien, c'est par souci d'économiser de l'argent, de mettre la pression sur les gens en post-production et de... d'être sûr que le film sera prêt en moins de 2 ans, etc. Donc il y a une logique derrière qui n'est pas terrible. Mais à côté de ça, il y a d'autres films qui continuent à être faits en vrai, quoi, en dur.
Encantas de dire.
Netflix a déjà annoncé Bal perdu 3, du coup. Ils sont très enthousiastes à l'idée de faire la conclusion de l'histoire. Voilà. Donc on va s'y mettre, en fait.
C'était Guillaume Pierry et Alban Lenoir, le comédien, pour Bal perdu 2 sur la plateforme Netflix.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview. Ce sera celle de Roche Dizem, réalisateur de Les Miens. Et toi, Manu, tu auras un film
Oui, le nouveau Bertrand Bonello, en fait, Coma.
Toi, Guillaume, tu auras deux films un peu différents.
Oui, un film américain qui s'appelle La Petite Nemo et le Monde des Rêves et un film italien beaucoup plus sombre qui s'appelle Nostalgia.